véritablement que ce soit comme une prière, une réalité parmi nous. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Le Seigneur, il est à la porte, il revient bientôt. Et les moqueurs, eh bien, se multiplient. Mais bientôt, le Seigneur sera révélé l'Église de Jésus-Christ. Ceux et celles qui lui appartiennent véritablement. Et croyez-moi, quand le Seigneur voit son Église, il la voit très belle. Très belle. Et vous êtes beau aujourd'hui. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à nos amis pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Dans le cadre de la fête des mères, j'avais pensé ce matin de pouvoir vous parler d'une femme, d'une maman. Au départ, ce ne fut pas le cas. Elle avait un problème, on va le découvrir. Mais elle devint mère. Et cette maman veut nous instruire ce matin. Je veux parler, parce qu'il y en a pas mal de femmes remarquables, exceptionnelles dans la Bible. Je voudrais vous parler de celle qu'on appelle Anne. Anne, femme d'Elkana. Et pour ce faire, il nous faudrait lire un texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1. Alors il faudra supporter une vingtaine de versets pour vraiment que nous puissions entrer dans le contexte de cette très belle histoire, qui n'est pas une fable, mais une véritable histoire, une histoire vraie. Il y avait un homme de Ramathaim Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Mais jusqu'à quand cesseras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin !» Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelle belle histoire! Quel beau témoignage! Parmi tant d'autres, bien sûr. Mais j'ai voulu choisir celui-là ce matin pour honorer toutes les mamans qui se trouvent en ce lieu. Pour honorer ceux et celles qui placent leur foi en Dieu. Et cette femme pieuse a des leçons, des enseignements à nous accorder ce matin. L'histoire fait mention d'un homme du nom d'Elkana. Elkana qui habitait avec sa famille dans une ville appelée Ramathaïm Tsophim, située au nord de Jérusalem. Et la particularité d'Elkana, nous l'avons lu, c'est qu'il était bigame, c'est-à-dire qu'il avait deux femmes. Une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et à cette époque, il faut le dire, et je précise, et même si Dieu ne le cautionnait pas, un homme dont l'épouse était stérile pouvait, c'était toléré, épouser une seconde femme afin d'avoir une postérité. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce fut le cas de plusieurs autres personnages de la Bible. Allez, vous pouvez m'en citer quelques-uns. Abraham. Ah oui, Abraham. Non, Salomon, c'est autre chose. Mais Abraham, avec Sarah, qui était également stérile, et cette dernière étant stérile, a proposé à son mari de pouvoir avoir des enfants par le biais de sa servante. Ce fut aussi le cas de Jacob, avec Rachel, rappelez-vous. Au départ, elle avait du mal à avoir des enfants. Et pareil, elle a donné sa servante. Et a priori, ce fut aussi le cas d'Elkana, qui voyant son épouse Anne, sa bien-aimée, qui ne pouvait avoir d'enfants, elle décida de prendre une seconde épouse, du nom de Pénina, afin d'avoir une postérité, afin d'avoir des enfants. Et on se rend compte dans le texte que nous avons lu que Pénina a pu lui accorder des enfants. On le lit par exemple au verset 4. On parle des fils et des filles d'Elkana qu'il a eu avec Pénina. Mais la vérité, c'est que souvent la polygamie ou la bigamie entraîne des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Entraîne des problèmes, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a institué au départ. Qu'est-ce qu'il a institué au départ? On le lit depuis le livre de la Genèse. Je sais que, il y a un cher couple là qui est revenu parmi nous, qui roucoule là au fond. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur au départ? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas à s'attachera à ses femmes, à sa femme. Eh oui! Et je me rends compte que toutes les fois où on déroge à ce que Dieu a mis en place, à ce que Dieu a institué, il y a forcément des problèmes. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire de cet homme Elkana, qui a suivi certainement une tradition, quelque chose, une coutume qu'il y avait à l'époque, mais qui n'a pas, en tout cas pour le coup, suivi ce que Dieu avait mis en place. Mais je ne suis pas venu ce matin pour vous parler de polygamie, de bigamie et compagnie. Je suis venu, inspiré par le Saint-Esprit pour nous laisser des enseignements au travers de cette lecture que nous venons de lire. Elkana veut nous enseigner. Pénina veut nous enseigner. Mais j'ai envie de dire surtout, Anne veut nous enseigner. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Et pour cela, le Seigneur, comme on vient de chanter, nous a donné sa grâce et même sa gloire, puisque nous avons l'Esprit de Dieu au dedans de nous. Mais il nous a surtout donné sa grâce. Et je ne sais pas si vous le savez, le nom de Anne, la signification du nom d'Anne, c'est grâce. Grâce de l'Éternel, vous le saurez. Vous savez aussi pour mon prénom, Joël, qui a aussi un nom hébreu, il y a une signification, ça veut dire l'Éternel est Dieu. Mais pour Anne, c'est grâce. Et on voit véritablement cette femme qui a été littéralement portée par la grâce de Dieu, qui a été accompagnée par la grâce de Dieu. Et on comprend qu'avec, à juste titre, que le berger, mais aussi le grand roi David, a su dire en son temps, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors j'aimerais déjà qu'on s'arrête par rapport à Pénina. Pour cela, je vous propose de relire juste deux ou trois versets, quatre, du verset 4 au verset 6, 1 Samuel chapitre 1, verset 4 à 6. Il nous est dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et voilà ce qu'il est dit au verset 6 concernant Pénina et qui est vraiment inquiétant pour cette femme. Sa rivale, donc Pénina, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Verset 7, et toutes les années, Il en était ainsi. Chaque fois qu'An montait à la maison de l'Éternel, que faisait Pénina ? Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, que faisait An ? Elle pleurait et ne mangeait point. Pénina mortifiait An, l'autre épouse de son mari. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire mortifier. Alors, j'ai regardé pour vous. Il faut bien que je travaille pour vous. Mortifier quelqu'un consiste à humilier, consiste à blesser, consiste à bien rabaisser volontairement, à faire souffrir une personne. Et régulièrement, on l'a lu ensemble, Pénina s'appliquait à humilier An à cause de sa stérilité. Pire encore, et on l'a lu au verset 7, Pénina avait pris un malin plaisir à mortifier An. À quel moment ? Chaque fois que la famille se rendait dans la maison de l'Éternel. Et là, je me pose des questions sur Pénina, sur sa foi, sur sa croyance. Je me pose des questions sur cette femme qui, saisie par la jalousie, avait une attitude répréhensible concernant sa rivale, concernant An. Pour agir ainsi, c'est certain, Pénina n'avait pas la crainte de Dieu dans son cœur. Combien de personnes aujourd'hui se disent chrétiens et peuvent même venir à l'église d'une manière désinvolte. Chaque jour, chaque année, toute cette famille venait à la maison de Dieu. Je ne sais pas s'ils se rendaient à l'église d'Istres, mais ils se rendaient quelque part. Mais dans ce lieu-là, cette femme choisissait de faire du mal à son prochain. C'est ça la vérité. Il y a peut-être un premier enseignement pour nous. Nous pouvons déclarer haut et fort que nous appartenons à Dieu ou nous sommes enfants de Dieu. Mais la vérité, c'est que seuls nos actes, seules nos paroles, frères et sœurs, seules nos attitudes peuvent réellement témoigner ce que nous sommes réellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Vous savez, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Et on peut dire haut et fort, Seigneur, je te loue, mais montre-moi comment tu vis. Et je te dirai qui tu es. Et ce n'est même pas à moi de le dire, ce n'est à personne d'autre de le dire. C'est tout simplement la parole de Dieu qui nous juge. Et Jésus, d'ailleurs, l'a dit à ses disciples en son temps, Matthieu chapitre 7, verset 16. Il a été clair, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment on reconnaît un enfant de Dieu ? Comment on reconnaît un chrétien ? On les reconnaît à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons ? Eh non. Donc si tu te dis chrétien, alors manifestement tu dois rayonner de l'amour de Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est saint. Tu dois marcher dans la vérité, tu dois marcher en paix, tu dois marcher dans la justice. Et non pas la tienne, mais la justice de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? Dites-moi si je suis en train de tergiverser. Pénina n'a pas porté, hélas, de bons fruits. Pénina nourrissait de la jalousie, je l'ai dit tout à l'heure, à l'égard de An. Et on peut comprendre, parce que dans la subtilité du texte, nous voyons que Elkana avait, soyons honnêtes, une préférence pour An plutôt que Pénina. Et sa manière à elle de pouvoir réagir par rapport à cette injustice, c'était de pouvoir mortifier, faire du mal à An. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, qu'est-ce que faisait Pénina ? Pénina faisait le jeu du diable. Le diable utilisait tout ce qui pouvait sortir de la bouche de cette femme pour blesser le cœur d'An, pour la pousser à s'irriter contre Dieu. C'est subtil, on peut le relire. Et toutes les années, verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Elle apportait des mortifications à An. Parle de Pénina, au point de l'irriter et lui donner peut-être à lever le poing contre Dieu et pour que cette dernière dise, mais Seigneur, pourquoi tu m'as rendu stérile ? Entre nous, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal et les circonstances font que des gens peut-être naissent avec la stérilité, d'autres problèmes, mais le mal ne peut pas venir de Dieu. Jamais. Par contre, le Seigneur, il est la réponse à tous nos maux, à tous nos besoins, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Peninna, eh bien, c'est que nous avons besoin de veiller à ce que le diable ne nous utilise pas les uns les autres, eh bien, pour être une pierre d'achoppement, eh bien, pour être quelque part pour servir à ses desseins, à lui, au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, eh bien, sont les suivants. Il vient pour détruire, pour égorger, pour dérober. Je ne sais pas si vous connaissez la signification du nom de Peninna. Peninna veut dire corail. Et je ne veux pas faire un jeu de mots, mais veillons à ce que, quelque part, nous n'ayons pas un cœur dur comme du corail. Que nous n'ayons pas un cœur dur, tout comme bien le cœur de Peninna, qui, malgré la souffrance de sa rivale, parce qu'elle voyait bien qu'elle faisait pleurer sa rivale, eh bien, malgré tout, elle a tout de même persisté dans sa méchanceté. Au contraire, frères et sœurs, veillons à ce qui sort de notre bouche, afin que toujours ce qui sort de notre bouche puisse être une source de bénédiction pour nos frères et pour nos sœurs, pour notre prochain d'une manière générale. Amen. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Si ce matin, vous voyez un tel, une telle, et puis en souriant, vous dites, « Ma sœur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. » Ça, c'est d'une parole de grâce. Qu'est-ce qu'il y a comme autre parole de grâce? « Oh, ma chère sœur, eh bien, que Dieu te bénisse, te comble, toi et toute ta famille. » C'est ça, des paroles de grâce. Et on est là pour bénir. Lorsqu'on connaît Dieu, eh bien, on est plein de bonté, plein d'amour et de miséricorde à l'égard du prochain, et on cherche le meilleur, eh bien, pour le prochain. Je ne veux pas m'attarder sur Peninna. Il y a un autre personnage qui pourrait nous interpeller, c'est bel et bien notre ami Elkana. Alors, à cause de sa stérilité, Anne était en souffrance. Anne même avait perdu, eh bien, l'appétit. Et que faisait son époux, Elkana? Eh bien, Elkana faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la réconforter. On le voit par exemple au verset 5, 1 Samuel 1, verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double. Et il est précisé, je l'ai souligné là, moi sur mes notes, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Mais voyez-vous, tous les efforts de ce cher mari étaient vains, furent vains. Tous ces efforts ne suffisaient pas pour apaiser la souffrance d'Anne. Malgré son profond amour pour Anne, Elkana ne semblait pas pleinement comprendre la souffrance, la profondeur de la souffrance de son épouse. J'en ai pour preuve ce que Elkana va poser comme question à sa chère et tendre épouse, 1 Samuel chapitre 1, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, mais pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Et puis il va même plus loin. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Je ne sais pas si Anne a écarquillé les yeux à ce moment-là, plein de tendresse pour son mari, parce qu'elle voyait bien que son mari faisait le maximum. Et il y a peut-être pour nous une leçon à tirer par rapport à cela. Il y a des souffrances chez le prochain que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, comprendre. À moins peut-être qu'on puisse arriver à les avoir vécues à un moment donné, et encore, c'est pas tout dit, c'est pas vérifié. Toujours est-il, il y a pour nous au moins deux enseignements à retenir d'Elkana. Elkana est ici l'image de notre limite, l'image de nos faiblesses, l'image des limites humaines. On le voit, malgré tout son amour et la bienveillance qu'il a manifesté à l'égard de son épouse, Elkana n'a pas su consoler le cœur de sa propre épouse. Et là, je fais un petit clin d'œil aux maris ou femmes de cette église, au couple de cette église. Nous qui sommes mariés, comprenons qu'il y a des choses que notre conjoint ne pourra jamais, au grand jamais, nous apporter. Est-ce que c'est vrai ou pas, frères et sœurs? Pourquoi ? Parce que nous sommes limités, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous ne comprenons pas tout. Et d'ailleurs, un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. On va donner ce qu'on pourra bien apporter. Et d'ailleurs, se marier, c'est chercher le bonheur bien du conjoint. Mais il y aura forcément des limites où on ne va pas comprendre les plus profonds, le tréfonds du cœur de notre conjoint. Mais lorsqu'on sait lever la tête, bien on peut être parfaitement comblé de tous les vides, de toutes les souffrances, de toutes les peines qui pourraient se trouver dans notre cœur. Amen ou pas amen ? Et puis peut-être un deuxième enseignement qu'on peut tirer d'Elkana. Elkana fait le choix de s'en remettre à la bonté et la miséricorde de Dieu. Vous savez, quand il a su que son épouse bien-aimée était stérile, il aurait pu se décourager, il aurait pu peut-être baisser les bras et dire, bien, Seigneur, si c'est comme ça, moi je ne viendrai plus te louer ou t'offrir des sacrifices. À l'époque, c'était à Silo, ce n'était pas à Jérusalem, mais à Silo. Je n'irai plus. Mais Elkana a choisi de se confier en son Dieu. Et chaque année, on le voit, on l'a lu ensemble, Elkana se rendait avec toute sa famille dans la maison de Dieu, à Silo, afin d'offrir des sacrifices à son Dieu. De même, frères et sœurs, de la même manière que Elkana s'est recommandé à Dieu, il n'a pas laissé libre cours à peut-être de la rancœur, de l'incompréhension, il s'en est fié à la grâce, à la miséricorde de Dieu. De même, nous sommes invités, nous sommes encouragés à nous recommander à Dieu qui connaît nos peines. S'il y a un qui connaît nos peines ce matin, c'est bel et bien le Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté des merveilleux chants. Je félicite notre frère avec toute l'équipe qui était là. Mais il n'y a que Dieu qui sait les peines et les souffrances qui peuvent se trouver dans les cœurs. Et le Seigneur a une tendresse inégalée, inexprimable, ineffable à l'égard de chacun d'entre nous. Sa tendresse est telle qu'il connaît les besoins, les souffrances, peut-être même ce qui fait vos joues sont quelquefois mouillées par vos larmes. Dieu non seulement, il connaît la peine, il connaît vos souffrances, mais mieux encore, il veut prendre en main votre cause. C'est ce que rappelle d'ailleurs le psalmiste dans le psaume chapitre 10 et le verset 14. Parlant de Dieu, l'auteur de ce psaume a dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Et ce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur, vous qui souffrez, vous qui êtes dans la peine, abandonnez-vous entre les mains de Dieu. On peut être chrétien et aussi connaître le malheur. On peut être chrétien et connaître des moments de difficulté où on n'en peut plus. Confiez-vous en celui qui n'est pas indifférent à votre souffrance, mais en celui qui est capable de prendre en main votre situation. Vous savez, le Dieu qu'on sert, c'est celui qui change le mal en bien. Il est le Dieu des miracles. Pour lui, rien n'est impossible. Alors, je ne veux pas être trop long ce matin. Je voudrais terminer en m'arrêtant sur l'attitude exemplaire de notre amie Anne. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter juste sur un seul verset. Le verset 10, qui, me semble-t-il, est la clé de toute cette histoire. Et le verset, j'ai envie de dire charnière, qui va nous permettre de comprendre ce qui a pu débloquer la situation et permettre à cette femme d'expérimenter la grâce de Dieu. Il nous est dit simplement, concernant Anne, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Juste ça. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La Bible nous dit que l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire la souffrance, la peine au plus profond de son être, néanmoins, Anne a fait le choix de prier et de prier Dieu. Et je nous pose la question en retour. Et nous, frères et sœurs, quand l'amertume se trouve dans notre cœur, quand la peine, quand la souffrance se trouve dans notre cœur, quelle est notre attitude ? Quand l'amertume est dans notre cœur, dans notre âme, on se lève avec, on dort avec. Quelle est notre attitude ? En tout cas, dans le monde, certaines personnes choisissent d'apaiser leur amertume par de la vengeance. Et je voudrais juste vous donner des exemples très rapidement. Par exemple, dans le contexte de notre ami David, 1 Samuel chapitre 30, verset 6, regardez ce qu'il est dit. « David fut dans une grande angoisse. Pourquoi ? Parce que le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient, quoi ? Aidez-moi. de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. L'amertume dans l'âme, tous ces gens avaient besoin d'un fautif. Leur fils, leur fille leur avaient été enlevés et il fallait un coupable. Et forcément, le coupable, c'est celui qui est plus en vue. C'est celui qui est plus en vue. Donc c'est David le coupable. Et on le menaçait de le lapider, certains, pour assouvir leur amertume, pour essayer de guérir, d'apaiser leur amertume. Ils vont chercher à se venger. Il n'y a pas qu'eux. D'autres, l'amertume dans l'âme, essayent justement d'oublier cette amertume, eh bien, tout simplement, en se livrant à des passions coupables, qui finalement les détruisent. On a l'exemple dans le livre des Proverbes, c'est Salomon, l'homme le plus sage au monde, qui a dit ces choses. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et on le voit bien, soyons honnêtes, et on n'est pas là pour les juger, mais souvent quand les gens boivent et qu'ils sont addicts de certaines choses, c'est juste pour, n'allez pas chercher loin, il y a une souffrance, il y a une blessure qui a été là, à un moment donné, même dans leur tendre enfance, et ils essayent d'oublier, de noyer ce problème eh bien, par toutes sortes de moyens qui vont leur permettre de s'évader. Mais quand ils reviennent, quand ils sont, excusez-moi l'expression, dégrisés, ben, ils reviennent à la réalité et ça leur fait tout drôle. Et puis, alors s'ils font, ils reprennent à nouveau, eh bien, que ce soit la bouteille, mais d'autres c'est la drogue, d'autres c'est la pornographie, c'est tout ça pour assouvir un problème qui est là, pour essayer de soigner un problème. Mon frère, ma soeur, regarde à Dieu. Pour que tu sois définitivement libéré de cette amertume. D'autres aussi évacuent leur trop-plein d'amertume en laissant libre cours à leurs plaintes. C'est leur soupape de sécurité. Et on le voit avec notre ami Job. Et n'allez pas me dire que Job n'était pas spirituel. N'allez pas me dire que Job n'avait pas la crainte de Dieu. Et il nous est dit, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, dit Job. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Comme le trop-plein est là. Alors, incessamment, on parle. Le problème, c'est qu'on craint un fossé autour de nous. Parce que partout où on va, eh bien, on va se plaindre. Or, les gens, ils n'ont pas besoin d'entendre des plaintes. Déjà, la vie est tellement difficile. Ah, voilà, il arrive. Oh là là, il va me parler du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin de ses problèmes. Mais aussi, il ne faut pas les accuser, ces gens-là. C'est un trop-plein. C'est une souffrance qui est là. Il faut les yeux spirituels pour avoir ce recul et agir comme le Seigneur aurait fait à notre place. Et je pourrais comme ça continuer la liste d'exemples. Mais Anne, elle, l'amertume dans l'âme, a choisi de prier Dieu. Je l'ai dit pour info tout à l'heure, le nom, la signification du nom d'Anne, c'est grâce. Grâce de l'Éternel. Et c'est le cas de le dire, Anne a choisi de se recommander à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu concernant son problème de stérilité. Car elle a compris que son problème eh bien, n'allait trouver solution qu'en Dieu, même pas en son mari. En ayant recours à Dieu, par le biais de la prière, Anne fit un acte de foi. Vous savez pourquoi les gens aujourd'hui ne prient pas Dieu ? Même que ce soit les gens extérieurs, et je vais même plus loin, même des chrétiens, ils ont arrêté de prier Dieu par rapport à un problème qui les dépasse. Alors, soyons honnêtes et avouons-le, c'est tout simplement parce que nous ne croyons pas, parce que nous ne mettons pas notre foi en Dieu, parce que nous ne pensons pas que Dieu puisse arriver à solutionner ce problème. Oh, il peut solutionner d'autres. Ah ça, Seigneur, là, oui, tu peux. Mais celui-là, non, même moi-même, je n'y arrive pas, Seigneur. Toi, tu ne pourras pas. Alors, on ne le dit pas. Hein. Mais est-ce qu'on ne le pense pas? Ou peut-être même inconsciemment. Mais le fait qu'Anne se soit mise en prière prouve qu'elle a fait le choix de placer toute sa foi en Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Marcher eh bien, pas à pas dans cette foi et compter sur la grâce de Dieu. Et je note aussi, j'en ai bientôt terminé, eh bien, avec vous, eh bien, que Anne pria avec persévérance. Et on l'a lu au verset 12, même le verset 13, on va lire les deux versets, 1 Samuel chapitre 1, versets 12 et 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie, c'était le sacrificateur à l'époque. Et il avait bien observé cette femme qui, la Bible nous dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Même dans cette affaire, Élie n'a pas su discerner le problème, la souffrance qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Pourtant, cette femme, elle ne s'est pas arrêtée sur l'incompréhension des hommes. Elle a persévéré, elle a persévéré. Elle avait une foi en ce que Dieu non seulement était capable d'entendre sa prière, mais aussi d'intervenir. Le Dieu des miracles existe réellement, frères et sœurs. Voici encore une qualité spirituelle chez cette femme qui désire nous instruire. Anne a manifesté de la persévérance dans la prière. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a encouragé ses disciples en son temps à également prier, oui, à exercer leur foi au travers de la prière, parce que de toute façon, lorsque vous vous mettez à prier, vous exercez votre foi, ça c'est clair. Mais il nous demande, dans certaines circonstances, de pouvoir user de persévérance. Il y a des choses que le Seigneur va même nous donner avant même que nous ayons fini de dire « Amen » à notre prière. Mais il y a d'autres circonstances où Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière. Prier jusqu'à ce que Dieu puisse pleinement répondre. Et Jésus l'a rappelé à ses disciples quand il a parlé, par exemple, de la parabole de la veuve. La veuve et le juge inique. Vous rappelez-vous dans Luc chapitre 18 verset 1. Regardez, il introduit, on ne va pas lire toute la parabole, c'est le temps qui nous manquerait, mais il nous est dit dans Luc chapitre 18 et le verset 1, la chose suivante, Jésus leur adresse une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et, alors aidez-moi aussi, ne point se relâcher, ne point se relâcher. Alors mon frère, ma sœur, pourquoi t'es-tu relâché? Pourquoi t'es-tu relâché? Tu avais si bien commencé. Et mon cœur se réjouissait en te voyant prier, intercéder. Pourquoi t'es-tu relâché? Est-ce que c'est parce que tu as continué à regarder les circonstances qui sont, je le comprends, décourageantes? Mais pourquoi t'es-tu relâché? Tu étais à deux doigts d'obtenir gain de cause de la part de ton Père Céleste. Et dans le combat que tu mènes, Dieu désire que tu ne te relâches pas. Dieu désire que tu persévères dans la prière jusqu'à ce qu'il intervienne pour toi. Hébreux chapitre 6, verset 12, il nous est dit la chose suivante. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez qui? Ceux et celles qui par la foi et la persévérance héritent quoi? Héritent des promesses. Et des promesses, en veux-tu, en voilà dans la parole de Dieu. Allez, j'en ai un que je n'ai pas cité, pardonne-moi mon cher Pierre, Matthieu chapitre 7, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? C'est une promesse que Dieu nous laisse. Il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous est. Et Dieu, attendez à ce que tu frappes, et que tu frappes jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Car il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Jacques, lui, il a été très, très, très terre-à-terre, binaire, j'ai envie de dire. Il a dit, c'est pas compliqué. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors la Palisse même a été vexée de cette évidence. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais il est question aussi de demander et aussi de persévérer jusqu'à ce que le Seigneur, il intervienne. Surtout si Dieu, eh bien, t'a laissé une promesse. Ce fut le cas en tout cas pour Anne, suite à sa prière de foi, suite à sa persévérance, Anne reçut une parole de la part du sacrificateur Élie. Car quand il a compris eh bien, qu'il avait mal jugé eh bien, cette femme qui était en train de prier, de persévérer dans la prière, cet homme eh bien, va lui donner une parole de la part de Dieu. 1 Samuel chapitre 1 verset 17 et 18, Élie reprit la parole et dit « Va en paix ». Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et c'est extraordinaire, et son visage ne fut plus le même. Vous savez quand, dans la persévérance, pas le sacrificateur Élie, parce que lui il est déjà mort, mais quand le souverain sacrificateur vous révèle une parole tirée de la Bible, quand cette parole vient dans votre cœur pour répondre réellement à votre besoin que vous êtes en train de vivre, votre visage n'est plus le même. Vous sortez de votre lieu où vous étiez en train de prier, eh bien, différemment. D'ailleurs, le monde le voit et le monde spirituel le voit. Et cet homme et cette femme, plutôt Anne, est sortie du lieu de la prière est sorti de la présence de celui qui pouvait aussi symboliser, eh bien, celui qui faisait quelque part le trait d'union entre le ciel et la terre, le souverain, le sacrificateur Élie. Quand elle est sortie de ce moment-là, je peux vous dire qu'elle était toute différente. Elle ne s'est même pas relâchée, eh bien, dans la prière, mais sa prière était différente. Elle n'était plus dans les larmes, elle commençait à louer, à adorer le Seigneur, parce qu'une conviction est venue s'installer dans son cœur. Amen, frères et sœurs. Nous avons le plus grand des sacrificateurs, celui qui a donné sa vie sur la croix, Jésus, et nous a déjà prouvé son amour. N'allez pas me dire que Dieu ne nous aime pas. Et si on veut être honnête, c'est nous qui n'aimons pas, c'est le Seigneur. Et quand je dis ça, je me parle à moi-même. J'ai besoin de faire des progrès, j'ai besoin d'avancer avec le Seigneur. Qui est arrivé ici? Qui peut lever la main et dire qu'il est juste, qu'il est parfait? Personne. On a tous besoin de la grâce de Dieu, mais jamais nous pourrons bien remettre en cause l'amour de Dieu qui a été parfait. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie sur ce bois infâme pour chacun d'entre nous. Je ne veux pas douter de l'amour de Dieu. Je ne veux pas douter de ses promesses. Mais je veux entendre bien ce que cette femme est en train de m'enseigner au travers de sa souffrance, au travers de son épreuve. Cette femme a prié Dieu. Cette femme a persévéré. Et parce qu'elle a persévéré, elle a reçu une parole, une conviction qui est venue dans son cœur. Elle a su que Dieu a entendu sa prière, mais mieux encore que Dieu a exaucé. Et Dieu a exaucé d'une manière extraordinaire. Elle est rentrée chez elle, la Bible nous dit, on l'a lu, bien que son mari l'a connue, et ensemble, bien sûr, ils ont eu un enfant dans le courant de l'année. Et cette femme, pleine de reconnaissance, va dire, cet enfant, moi je vais l'appeler Samuel. Que veut dire Samuel? Dieu? Oui, Dieu a donné. Allez, pour être plus exact, Dieu a exaucé. Dieu a répondu. Et pour ceux qui le savent, plus tard Samuel devint un grand prophète devant l'Éternel. Et puis Dieu, comme il aime bénir au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a continué à bénir Anne. Puisqu'après Samuel, Anne a eu 3 fils et 2 filles. 3 + 2 = 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Et cette grâce, on voit, a accompagné cette femme jusqu'au bout. Et cette grâce, c'est cette même grâce qui nous accompagne. Elle est en combinaison avec l'amour, prête à relever tous les défis avec nous. Mais encore faut-il que nous ayons l'attitude de Anne. Anne, l'amertume dans l'âme, se mit à prier son Dieu. Anne, l'amertume dans l'âme, se mit à prier Dieu avec foi et persévérance. Et Anne reçut de la part de Dieu un réma, une parole de vie qui lui a donné à pouvoir tout simplement attendre, parce qu'après c'est une question de temps, comment le Seigneur allait débloquer la situation. Frères et sœurs, le Dieu qu'on sert, et je dis en conclusion, il est tout puissant pour agir. Je ne sais pas ta situation. Chère maman, je ne sais pas ta situation. Peut-être ta peine, ce n'est pas temps de rechercher à avoir des enfants, parce que tu es bel et bien maman, mais peut-être toi, ton besoin, c'est de voir tous tes enfants passer de la mort à la vie, être sauvés. Apporte tes enfants au Seigneur. Ne te relâche pas, même si tu vois le contraire avec tes yeux physiques, attends-toi au Dieu Tout-Puissant qui est capable d'honorer. Il y a même des gens, alors ce n'est pas pour vous décourager, qui ont eu l'exaucement, mais après leur mort. Mais le Seigneur a quand même exaucé. Le Seigneur est Tout-Puissant. Et la Bible nous dit, je termine par ce verset, Hébreux chapitre 4, verset 16, après on va prier. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a une version qui dit pour être secouru dans tous nos besoins. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi ce matin du trône de ton Père céleste et Dieu va te bénir. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour cette belle histoire de cette femme, Anne. Seigneur, nous surprend, Seigneur, nous émerveille. Par rapport à cette prise de position, Seigneur Père, qu'elle a placée devant toi et devant les hommes, l'amertume dans l'âme, elle choisit, Seigneur mon Dieu, de te prier et de certes continuer à verser des larmes, mais Seigneur, ta parole nous dit que même, Seigneur, tu entends la voix de nos larmes. Tu vois les peines, les souffrances cachées que les hommes ne peuvent pas comprendre. Tu vois, Seigneur, les mamans qui souffrent ce matin. Tu vois, Seigneur, les peines qui peuvent être cachées au regard humain, mais que tu vois parfaitement. Et comme nous l'avons lu, tu peux prendre en main Seigneur, notre situation. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir cette église d'Istres, de bénir, Seigneur, chacune de nos vies. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons douté. Pardonne-nous quand nous avons eu même l'attitude de Pénina, Seigneur Père éternel. Pardon, Seigneur Père éternel, pour nos limites. Mais Seigneur, fais-nous la grâce de ressembler à Anne, qui a été exemplaire, qui nous enseigne ce matin, cette merveilleuse maman, qui avait la crainte de Dieu dans son cœur. Fais du bien encore en ce matin, au nom de Jésus, Père, pour la seule gloire de ton nom. Et bénis particulièrement, Seigneur mon Dieu, nos mamans, toutes celles, Seigneur mon Dieu, qui sont mères, Seigneur en particulier en ce jour. Merci encore, Seigneur, pour le courage que tu leur donnes. Seigneur Père mon Dieu, d'éduquer les enfants, de pouvoir les amener jusqu'au bout. Seigneur Père mon Dieu, chercher le meilleur pour leurs enfants. Bénis-les d'une manière particulière. C'est notre prière dans le cadre de cette fête des mères, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Que Dieu soit béni.